Cube Radio. Minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio. Vendredi 21 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Un autre matin assez froid quand on regarde la température. On est à moins 25 en ce moment, moins 31 le ressenti. Moins 19 le maximum aujourd'hui avec du soleil. Mais là, la nuit prochaine s'annonce pas mal froide. On a un avertissement de froid extrême, moins 29. C'est la température attendue, mais avec le vent, on devrait atteindre du moins 38, du moins 40. Et ça, c'est pour la région de Montréal. Alors, je vous laisse imaginer un peu partout ailleurs au Québec où le froid est habituellement un petit peu plus mordant. Je pense à l'Abitibi, Québec. Dominique, à qui on va parler dans les prochaines minutes, va pouvoir nous dire à quoi ça va ressembler de son côté dans la capitale. Mais sincèrement, faites attention. D'ailleurs, Hydro-Québec qui demande à la population de diminuer la consommation d'électricité aujourd'hui, toute la journée et samedi en avant-midi. On a des besoins justement pour éviter d'atteindre et de dépasser des pointes. On s'attend fort probablement à fracasser un nouveau record. Alors, si vous avez une brassée, ben attendez à samedi après-midi, à dimanche. Ne la faites pas. Partez le lave-vaisselle durant la fin de semaine. Mais faites attention aujourd'hui et demain avec la consommation d'électricité. Maude, bonjour.
Salut, Philippe-Vincent.
Pas mal de nouvelles ce matin dans les différents quotidiens sur la COVID et un peu partout. On parle de ce froid polaire à l'école.
Hein? Ça m'a fait halluciner ce matin, puis je me dis, une chance qu'il n'y a pas d'école la fin de semaine, parce que aujourd'hui
c'est
extrêmement froid, mais tu sais, ouvrir les fenêtres pour aérer.
C'est pas une craque, là, parce que tu sais, on a mis des lecteurs de CO2 dans les écoles. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a beaucoup qui dépassent les normes. Là, on va nous dire, c'est mal calibré, il y en a juste 42% des classes qui en ont, etc. Mais bon. Et là, on dit, ben ouvrons les fenêtres, au moins ça va faire circuler l'air. Là, il y a des enfants qui disent, ben moi, il faut que je mette mon manteau, froid, j'ai ben trop froid. Des profs qui achètent des chaufferettes.
Moi, c'est la partie qui m'a le fait le plus sourciller. T'arrives au travail avec ta chaufferette. Mais
moi, à l'époque, on me punissait quand je parlais trop en classe, on m'envoyait dans le fond. Mais je pense qu'il y a une nouvelle punition, c'est, hey, tu vas aller sur le bord de la fenêtre.
Tu vas avoir frais d'embaudir.
Là, je pense que j'arrêterai de parler.
Oui, puis tu sais, il y a un article aussi dans Le Devoir là-dessus ce matin en une orthopédagogue qui dit, ben là, j'ai plus que le seuil de PPM qui est inscrit sur mon lecteur, mais à ce moment-là, je fais quoi? On va pas mourir si on reste dans la classe, mais juste, je fais quoi? Parce que je le sais que c'est plus élevé que ce qu'il faut, mais là, les fenêtres ouvertes à moins 30, ça va être correct.
Non, c'est ça. Puis après ça, on change quoi? Parce que là, ce que le ministère nous disait, c'est que ben, ceux qui demandent un échangeur d'air vont en avoir. Ben, est-ce que ce serait le temps que ces écoles-là en demandent, le fassent, les installent, qu'on accélère ou peut-être qu'on aille au-devant de certains centres de services scolaires qui parfois peuvent être endormis? C'est l'impression du moins que ça donne, si c'est pas le cas. Prouvez-le. Hier, Québec qui a décidé d'attendre avant d'annoncer la levée de certaines mesures, contrairement à l'Ontario, la France, le Royaume-Uni qui sont en train de planifier leur déconfinement. D'ailleurs, ça se reflète un peu là, dans le ras-le-bol des gens. Là, on a vu la pâtissière de Saguenay qui était pas contente, qui a décidé d'ouvrir sa salle à manger, qui était au bout du rouleau, qui a dit assez, c'est assez. Puis on le sent aussi dans les sondages. Il y a un sondage Crop la presse ce matin qui dit que les gens sont de plus en plus tannés. Là, sur une échelle de 1 à 10, comment les gens se sentent? On est à 5,9. On était à 6,5 il y a un an, puis à 8,6 en début de pandémie. C'est vraiment les jeunes, les 18-34 ans, 4,5. On apprend aussi dans le sondage qu'il y a à peu près un quart là, de la population qui aurait quelqu'un dans leur ménage, dans leur famille, qui a contracté la COVID-19. On parle de la contribution santé aussi, à peu près un tiers de la population qui dit que ça devrait être plus de 1 000 $. Et aussi, près de 70%, là, 7 personnes sur 10 qui ne croient pas que le Québec va un jour, d'ici un an ou deux, là, être de retour à la normale. D'ailleurs, sur les cas, pas mal parlé là, du fait qu'on ne testait plus. Difficile de savoir à peu près il y avait combien de personnes. Selon une étude du Cyrano, on estime qu'il y a à peu près entre 33 et 58 000 nouveaux cas par jour qui ont été enregistrés au cours des derniers jours.
Là. Parce qu'on n'a plus les tests PCR confirmer tout ça. Donc, test rapide à la maison, mais c'est comptabilisé nulle part à ce moment-là. Donc, le reflet est vraiment...
Exact.
c'est un autre monde complètement.
Alors, on est à 5, 6, 7 fois plus que ce qu'on avait, ce qu'on enregistrait. D'ailleurs, nous, dans les médias, il y a plein de médias qui ne diffusaient même plus de toute façon le nombre de résultats quotidiens, justement parce que ça ne reflétait pas la réalité. C'était plus un chiffre qui était nécessaire. D'ailleurs, au niveau de ces tests-là et des infections, Radio-Canada nous apprend qu'il y a près de 5500 personnes qui ont passé un test PCR au début du mois de janvier dans le nord de Montréal. Ils viennent de recevoir une lettre, pas pour leur donner le résultat, mais pour leur dire que, ouais, le résultat, l'échantillon de dépistage, ça a été détruit. Vous ne connaîtrez pas votre résultat. On a eu des petits pépins techniques. Tant pis pour vous. Donc ça, ça a été fait entre le 2 et le 7 janvier. La presse nous parle aussi de ces infections dans les hôpitaux. On parle d'une moyenne d'à peu près 1000 nouveaux cas par jour d'infections qu'on appelle nosocomiales. C'est quelqu'un qui rentre, qui ne l'a pas, mais qui l'attrape dans les hôpitaux. Et là, c'est pas clair si on les comptabilise dans les chiffres des cas hospitalisés, on les met où, ces nouveaux chiffres-là. C'est pas clair. On a d'ailleurs Sébastien Trudel, à qui Richard a parlé plus tôt cette semaine. Vous pouvez aller réécouter son entrevue. On lui parle aussi dans la presse. Et là, Maud, autre gros dossier dans le Journal de Montréal de l'équipe de JE sur des chirurgies du rêve au cauchemar, là.
Ah, je me suis sentie mal en lisant ça, ouais, ça ce matin. Puis c'est mal dans tous les sens, là, parce qu'on raconte l'expérience de deux Québécoises qui ont été en Colombie pour avoir des chirurgies de nature esthétique, qui ont eu une des pires expériences de leur vie. Il faut savoir que comment ils sont venus à aller en Colombie pour faire ces chirurgies-là, ben c'est parce que deux Québécoises font la promotion sur les réseaux sociaux de ces chirurgies-là esthétiques pour le docteur Plazas. Donc elles ont toutes les deux été opérées par le docteur Plazas et référées par deux Québécoises qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de problème puis que ça allait être la meilleure chirurgie qu'il allait avoir, en gros, là, que le docteur Plazas était super qualifié et qu'elles allaient être très satisfaites du résultat. Ça a été tout le contraire. Une fois arrivées là-bas, après la chirurgie, juste vous mentionner là, que le docteur Plazas pousse là à un autre niveau l'accueil des Québécois, des Québécoises qui veulent aller se faire
comme
faire des chirurgies.
Comme une clientèle qu'il veut aller chercher.
Ouais, lui, là, il part avec son bonnet du Canadien de Montréal, puis tu sais, question de mettre, j'imagine, ses patientes en confiance. Mais finalement, notamment Alexandra Denis-Bérubé, de qui on raconte l'histoire, elle est allée pour subir une opération au sein, aussi une augmentation des fesses appelée un Brazilian Butt Lift, un peu pour avoir des silhouettes là, à la Kim Kardashian puis à la Nicki Minaj. Elle est allée là-bas, puis il y a des images, si vous n'avez pas pris votre déjeuner ce matin ou si vous venez de le prendre, comme...
Soyez avertis, c'est pas super.
C'est pas super chic. Donc, elle raconte qu'elle avait mal partout, que tous les emplacements qui avaient été ouverts n'avaient pas été refermés correctement. Donc, tout ce qui entoure ça, ben ça l'a suivi au Québec. A dû avoir des soins au Québec. Une patiente aussi qui témoigne anonymement qui, lors d'une liposuction, a carrément été brûlée durant la liposuction. Et le retour des personnes qui l'ont référé, là, des deux Québécoises qui sont ici puis qui font la promotion de ces chirurgies-là, ben, c'est de dire ben ça arrive des complications.
C'est tout.
Mais ce ne sont pas de petites complications. La dame qui témoigne de façon anonyme aurait carrément pu y laisser sa peau. Là. Donc, tout à l'heure, on va parler à une de ces deux patientes-là là, qui a été en Colombie, là, Alexandra Denis-Bérubé, à l'émission. Elle sera là. Puis avec Richard Martineau, là, on aura Félix Séguin qui, lui, s'est rendu justement en Colombie pour aller constater tout ça.
Sinon, il y a une histoire aussi d'une avocate soupçonnée dans une affaire de meurtre. Raconte-moi ça.
Oui, c'est une histoire digne d'un roman. Un policier, une jeune avocate, donc, qui est dans la mire de la Sûreté du Québec dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un trafiquant de drogue qui a été abattu sur la Rive-Nord il y a 3 ans. Les enquêteurs ont des raisons de croire que Maître Noémie Tellier, elle aurait été complice après le fait du meurtre de Francis Turgeon. Lui aurait été la cible d'un règlement de compte en mai 2019 parce qu'il refusait de donner, là, en gros, sa part aux Hells Angels pour avoir le droit de vendre de la drogue à Repentigny. Il y a un des principaux suspects dans l'affaire qui est Kevin Saint-Pierre, 32 ans. Lui, c'est l'ex-conjoint de la criminaliste et il est le père de son enfant. Le soir du meurtre, les policiers le soupçonnent de s'être rendu au domicile de la victime avec un complice dans la voiture qui appartenait à l'avocate. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'elle était sous filature, Maître Tellier, elle aurait fait plusieurs manœuvres en conduisant que les agents qualifient de contre-surveillance. Par exemple, faire un demi-tour dans une sortie d'autoroute, prendre une sortie au dernier moment. Il n'y a aucune accusation qui a été portée contre l'avocate jusqu'à présent. L'enquête de la police de Longueuil dans ce dossier-là, là, elle est toujours en cours. Là. Puis il y a beaucoup plus de détails là, que ce que je vous résume en ce moment. Là, c'est disponible sur le site du journal, puis dans le journal papier.
Et là, il y a un drame au Manitoba. C'est une histoire, on a appris ça hier. Il y a une arrestation aux États-Unis. Ouais. Un enfant là-dedans qui serait mort aussi.
Oui, une famille de 4 personnes, donc qui étaient visiblement des migrants d'origine indienne, qui a été retrouvée morte mercredi après-midi au Manitoba. 2 adultes, 1 adolescent, 1 bébé, qui ont été découverts à peu près 10 mètres de la frontière avec les États-Unis, mais du côté canadien, à Emerson. Ils sont visiblement décédés d'hypothermie. Le bureau du procureur du Minnesota a émis un communiqué hier après-midi pour annoncer l'arrestation d'un homme de 47 ans en lien avec toute cette affaire-là. Steve Shand, lui, est originaire de la Floride, a été accusé de trafic d'êtres humains. Toute une histoire là, qui arrache le cœur.
Merci, Maud.
Bye.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chèques qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement. Là.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Alors, on apprend ce matin que Dominique Anglade n'assistera pas aujourd'hui à la rencontre avec François Legault et les chefs de l'opposition. Elle dit « Je ne veux pas me faire instrumentaliser, ça donne rien, on n'a pas les avis de la santé publique, on est là simplement pour se faire répéter un peu ce qu'on entend dans les points de presse. » Yasmine, bonne stratégie de dire « Je ne participerai pas à ça » ou elle se tire un peu dans le pied?
C'est un peu entre les deux. Tu sais, là, elle ferme le Zoom puis elle va pas assister à la rencontre, mais je pense pas que François Legault va pleurer parce que Dominique Anglade n'y est pas. Lui qui n'a même pas nommé son nom hier en point de presse lorsqu'il a parlé de la chef de l'opposition officielle.
Il a dit c'est une normal. Chef de l'opposition.
Une chef, il y en a une, tu sais, fait qu'on sait c'est laquelle. D'ailleurs, elle a tweeté qu'elle s'appelle Dominique. Je sais pas si vous avez vu le tweet fight, mais moi, j'ai suivi ça avec du popcorn hier soir. Cela étant dit, tu sais, je pense que Dominique Anglade, c'est une bonne stratégie de sortir publiquement parce qu'elle commence à montrer qu'elle a des, qu'elle est capable de confronter le gouvernement. Surtout si, en effet, ce sont des points de presse qui se répètent en Zoom au privé et qu'elle n'a pas plus de questions, qu'elle ne peut pas poser plus de questions. Elle réclame, par contre, que ces rencontres-là soient ouvertes aux médias. Et c'est là où je pense que ça va trop loin. C'est soit on veut une rencontre privée où on veut avoir des réponses, où on veut poser des questions, puis qu'on veut mettre la partisanerie de côté. Soit on est en période de questions, puis ça va être à partir du 1er février. Puis là, ça, c'est ouvert au public, ouvert aux médias, puis ça peut être médiatisé. Mais un entre les deux, ça fonctionne pas nécessairement. L'article qui dit que Dominique Anglade claque la porte, ferme le Zoom, éteint le Teams, c'est surtout la question que je me pose, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, il a décidé quoi, lui? Paul Saint-Pierre Plamondon, il a décidé quoi, lui? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que eux, ils sont convaincus de la pertinence de ces rencontres? C'est là où on va voir si c'est une stratégie de François Legault ou une stratégie des oppositions.
Dominique?
Ouais, la question que je me pose, moi, c'est comment ça va être perçu par la population. C'est ça qu'on ne peut pas savoir jusqu'à présent. Moi, à première lecture, je me suis dit, ah ben oui, voilà, elle essaie de s'inscrire dans cette vague, pas de contestation, mais de roll-ball, je dirais, des mesures sanitaires. Surtout le premier ministre hier qui fait un point de presse pour dire, bon, on change pas grand-chose pour l'instant. Fait que je me suis dit, ouais, quand même. Puis après ça, je me demandais si c'était une bonne posture de chef de l'opposition officielle. Je pense que quand tu demandes à ce qu'il y ait des rencontres, quand tu demandes à avoir accès aux décideurs, au premier ministre, au ministre de la Santé, ben c'est la moindre des choses ensuite que de te rendre à la dite rencontre, même si c'est par écran interposé. Fait que je sais pas, j'ai hâte de voir. Ça s'inscrit dans une montée ou un changement de ton du PLQ face au gouvernement. Je pense que Mme Anglade se rend bien compte là, que prise entre GND et prise entre Éric Duhem aussi, qui eux ont des positions beaucoup plus tranchées, beaucoup plus assumées. C'est facile d'avoir des positions plus tranchées, plus assumées quand t'es à 10% dans les sondages, c'est sûr. Mais quand même, il fallait qu'elle soit audible. Puis il y a beaucoup de choses dans les dernières semaines qui ont été faites qui visaient à la rendre audible.
Ouais, l'une des critiques de Dominique Anglade, on l'a peut-être entendu hier aussi un peu, c'était que c'est pas nécessairement clair les avis de la santé publique. C'est le premier ministre là, hier, disait, nous on écoute la santé publique. Moi j'ai de la pression, mais c'est la santé publique. C'est la santé publique qui décide. On est un peu revenu à finalement on ne suit que les fonctionnaires de la santé publique. On a eu souvent cette discussion là ici entre nous. Mais derrière ça, il y a la question, est-ce qu'on assouplit ou pas? Il y a la pression populaire, on le voit, avec cette pâtissière là, qui est un peu le visage en ce moment de cette contestation-là, de dire hey, « je suis vacciné, tout le monde est vacciné, il y a le passeport vaccinal ici, il n'y a pas de cas dans mes restaurants, s'il vous plaît, ouvrez les salles à manger. » Puis de l'autre côté, hier, on nous disait « non, la santé publique dit que non. » Yasmine?
Ben, la santé publique dit que non, mais est-ce qu'on peut avoir un échéancier de quels seraient les indicateurs favorables à une ouverture, même graduelle, même à 50% des bars, restaurants? Cette pâtissière-là, c'est intéressant, je trouve, d'un point de vue d'image publique. C'est pas une propriétaire de bar ou de taverne pour laquelle la population aurait moins de sympathie. C'est une madame dans une pâtisserie, c'est bien cute qu'une pâtisserie, on aime ça. Ça fait de mal à personne, ça fait du bien à bien du monde. Fait que ça, c'est intéressant. Le monde va commencer à se dire, ben regardez, ça, c'est l'image de ce que c'est, ce cafouillis va mener. T'sais, elle dit, laissez-nous payer nos impôts, laissez-nous avoir nos employés. Je trouve ça très intéressant. Puis le gouvernement ne nous donne pas d'indicateur. Hier, François Legault fait juste dire, non, la santé publique dit que c'est pas encore le moment, mais ça va être quand le moment? Pouvez-vous nous dire à combien de taux d'hospitalisation, à combien de mortalité, combien de nombre de morts que vous allez considérer que on peut se permettre d'ouvrir à 50% les bars et restaurants, parce que c'est tout un drame qui se passe à côté. Puis d'un autre côté, tu sais, quand Ottawa est rendu plus le fun que Montréal, ça, c'est vraiment un drame national.
Wow. Là, tu mets le pied au bord de la ligne, Yasmine.
Fais attention, Yasmine, à ce que tu dis. Là. C'est pas parce que tu peux aller t'acheter un biscuit au Moulin de Provence en forme de feuille d'érable que c'est plus le fun Ottawa que Montréal.
C'est rendu que je peux aller au resto à Ottawa, mais comme pas à Montréal. Fait que Ottawa est officiellement, et pour une courte durée, une ville plus fun que Montréal. Ouais. Honnêtement,
mais Ottawa a comme un couvre-feu intégré dans la vie commune. Ils n'ont pas besoin d'en imposer là-bas. Là. Le couvre-feu, il existe pour tout le monde, puis il est accepté sans qu'on l'appelle un couvre-feu. Là. Dominique?
Ben, Yasmine a dit le mot qui est selon moi clé pour tout ça, c'est la prévisibilité. Et on voit plusieurs pans de la société ou de l'économie où les gens se disent à un moment donné, moi je veux avoir accès à ma ministre pour être capable de savoir à quoi m'en tenir. Hier, il y avait une rencontre avec les gens de la culture et les restaurateurs, c'est la même chose, le sport, c'est la même chose. Je pense que ce qu'on veut, c'est d'être capable de se faire dire, écoutez, voici où est-ce qu'on en est sur le continuum. Oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, là. Mais nous, ce qu'on regarde comme indicateur, c'est celui-ci, celui-ci, celui-là. Puis selon nous, la tangente est intéressante. Et je le sais que c'est pas tous les ministres qui font ça de manière égale. Un ministre que je ne nommerai pas, mais que je connais bien, rencontrait pendant la première et deuxième vague systématiquement tous les groupes, même si c'était pour leur dire, là, j'ai pas de nouveau, mais je veux savoir comment ça se passe.
Mais est-ce qu'il le fait encore? Parce que moi, j'ai reçu des courriels, par exemple, de garderie, là, je sais pas si on parlait, par exemple, du ministre de la Famille. À quel point c'est compliqué, là. Ils ont pas de tests rapides encore. Ils en ont reçu comme 4. Ils savent pas exactement qui doit isoler, combien de temps, comment, les 5 jours, les 10 jours. C'est plus clair parce que dans les garderies, les enfants sont pas vaccinés, les cocons. Le courriel qu'on m'a envoyé, c'est tellement confus. C'est incroyable. Je disais, puis après ça, on regarde les écoles. Ben, il faut ouvrir les fenêtres. C'est froid polaire. Ouvrir les fenêtres. C'est ça, la ventilation au Québec. Mettez des manteaux. Puis si vous êtes tannant, vous allez vous geler. Mais si vous coulez du nez, par exemple, puis vous toussez un petit peu parce que vous avez pris froid en classe, hop, 5 jours à maison. Let's go. C'est ça, là.
Ah non, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis je pense que la communication gouvernementale, on est dans les 50 nuances de gris, là. Parce que avant, c'était simple. C'était le virus est dangereux. On ferme. Le virus est parti. on ouvre. Là, c'est toi, tu peux ouvrir si, puis toi, tu peux pas, même si tu as l'air de t'apparenter à telle autre affaire. C'est ça qui est difficile pour les tenanciers de restaurants, de bars ou autres, je me répète, mais je pense que de pouvoir rendre accès, donner accès aux décideurs,
ouais,
aux différents groupes, puis pouvoir dire, regarde, moi, là, mon restaurant, là, j'ai perdu 50% de mon monde, puis je ne les reverrai jamais. Mais je veux savoir quand on va être capable de rouvrir. Pas demain matin, là. Faisons-le comme il faut. Mais je veux juste être capable, moi, ouais, comme gestionnaire, de me projeter.
Puis donnez-moi trois semaines pour engager, puis acheter de la nourriture, puis...
Mais on l'a, l'outil, en passant. On l'a. Et hey, rappelez-vous, il y a un an, là, il y a un peu plus d'un an, on avait un code couleur qui disait que quand il y avait tant de cas, on était en orange, il fallait baisser à 50%. Quand on était en rouge, il fallait fermer complètement. Quand on était en jaune, il fallait, on pouvait avoir les restaurants ouverts. Il est passé où, cet outil-là? Il est où, cet outil-là? Ils sont où, ces indicateurs-là, ce tableau de bord auquel bien du monde se fiait? Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait une région qui était jaune, puis là, tu pouvais juste traverser la région, tout d'un coup, les magasins, tu pouvais plus rien acheter qui était pas de la nourriture, puis là, tu traversais dans l'autre région, puis là, tout d'un coup, tu pouvais aller manger au resto.
Mais de toute façon, tu vas aller magasiner en Ontario, Yasmine, fait que...
Ouais, c'est ça,
hey,
c'est
magasiner, manger, sortir jusqu'à...
Hey, mais OK, j'ai une question quand même, j'ai une question de cohérence. Comment ça se fait que les coiffeurs, on n'en parle plus? Parce que là, on avait des passeports vaccinaux pour les esthéticiennes, les coiffeurs, ça s'en venait, c'était censé venir, puis là, non. Ben, les quincailleries, par contre, tu rentres 5 minutes à acheter une vis, passeport vaccinal. Tu passes une demi-heure, une heure sur une table de massage ou avec un coiffeur qui te coupe les cheveux, pas besoin.
Non, pas besoin. Puis ils doivent avoir un méchant bon lobbyiste.
Mais l'association des coiffeurs nous disait qu'ils voulaient. Ils voulaient le passeport vaccinal obligatoire, l'association des coiffeurs. Donc, on comprend pas, là.
Moi, j'y vais aujourd'hui à 11h45, Philippe Vincent, parce que c'est une question de respect là, pour les gens qui nous voient le matin.
Pour ta famille.
Pour ma famille. Donc, je vous dirai comment ça s'est passé. Si j'ai été accueilli aussi carré que quand je vais m'acheter mon fond de douche parce que je suis en train de refaire ma salle de bain aussi.
Bon, mais en tout cas, cette cohérence-là, j'ai un peu de la difficulté à la comprendre. Vous vouliez parler de Lorraine Richard du Parti québécois, Dominique?
Oui, Lorraine qui tire sa révérence, elle l'a annoncé hier, c'était sorti avant hier, mais hier elle a fait un point de presse dans sa circonscription sur la Côte-Nord pour dire que après 18 ans, elle a été élue en 2003, c'était le temps pour elle de passer à autre chose parce que c'est une question de santé, elle est atteinte d'un cancer avec beaucoup de chances de s'en sortir, mais quand même, que c'est le genre de nouvelle que quand tu reçois là, tu reçois la nouvelle que tu as le cancer, puis après ça tu te projettes dans l'avenir avec les traitements. Ce qu'elle nous dit, c'est que elle subit des traitements depuis un certain nombre de temps, un certain nombre de semaines, de mois, mais c'est difficile à rentrer dans un calendrier puis dans une vie de parlementaire. Alors moi, je l'ai bien connu, Lorraine, personnage coloré autour de la table des caucus. Tout le monde qui a déjà travaillé avec elle sait qu'elle a, puis je sais que c'est un euphémisme que de le dire puis qu'on le dit pour tous les députés, là, mais qu'ils ont leur population à cœur, mais Lorraine Richard a sa population à cœur. C'est quelqu'un qui, avant d'être député, était déjà très connu sur la Côte-Nord. C'est une infirmière qui a travaillé pour le bien-être de sa région, puis qui a toujours utilisé tous les leviers qu'elle avait pour s'assurer que les gens aient accès à tout ce qu'ils devaient avoir accès. Et comme députée, elle l'a très bien fait. Fait que je voulais lever mon chapeau à 18 ans d'engagement politique. Je pense que c'est la moindre des choses.
Yasmine?
Moi, j'ai connu Lorraine Richard lorsque je travaillais pour le docteur Yves Bolduc à l'éducation. Il était aussi responsable, il est ministre responsable de la Côte-Nord. Et donc, c'était la députée de la région avec qui il y avait toujours des échanges cordiaux pour vraiment le développement puis l'essor de la région de la Côte-Nord. Elle l'avait à cœur, c'était tatoué sur le cœur. Évidemment que c'était une députée très colorée dont on reconnaissait la voix, la tonalité, l'accent de loin. On savait que Lorraine Richard était dans le couloir de l'Assemblée nationale quand on marchait, même si on la voyait pas, était proche. Mais c'était une députée qui était hyper passionnée. Ses collègues le savent, ses adversaires le savent. Et c'est la fin d'une époque pour le PQ. Lorraine Richard, qui avait tenu le fort, ça va être encore un autre défi de trouver quelqu'un d'aussi passionné que Lorraine Richard pour pouvoir maintenir cette circonscription-là.
Ouais, puis politiquement, ça va être difficile quand même pour Paul Saint-Pierre Plamondon. En 2018, elle avait gagné par 125, 130 voix. Là, c'était super serré dans Duplessis. Donc là aussi, là, Paul Saint-Pierre Plamondon doit se dire Et il va y avoir du travail à faire là, là.
Un peu comme partout au Québec.
Exactement, où est-ce qu'il n'y en a pas?
Oui, mais en même temps, c'est quand même une de ces circonscriptions normalement. Là. Donc là, il y a comme le fardeau de trouver quelqu'un de plus solide, d'un poids lourd quand même, pour remplacer quelqu'un, des grandes pointures comme ça. Là.
Il doit y avoir quelque chose dans l'eau, parce que des gens hauts en couleur, il y en a beaucoup là-bas. Fait que peut-être est-ce que ce sera facile d'en trouver un autre.
Ben, il y a déjà des personnes qui semblent être intéressées à pouvoir lui succéder. On sait que le milieu syndical est très fort en Côte-Nord, notamment pour les questions minières, les travailleurs de la construction. Tu sais, il y a de la relève péquiste à Côte-Nord, bien plus qu'il y en a dans la grande région de Montréal.
Ouais, mais est-ce que juste c'est à Côte-Nord, je pense que j'ai de la famille, moi, là-bas, le Parti conservateur, ça pourrait être une possibilité pour eux? Ça pourrait être une région intéressante pour eux, fertile pour eux?
J'ai pas l'impression parce que pour les gens sur la Côte-Nord, en tout cas, c'était comme ça, première, deuxième, troisième vague. J'ai pas regardé les chiffres pour la suite, mais le virus circulait peu quand même. Donc, j'ai l'impression que ça reste une réalité qui était peut-être un petit peu plus loin. Fait que je suis pas sûr que donc le discours anti a une prise là aussi importante que là où les gens ont connu beaucoup de restrictions, parce que Yasmine parlait des codes couleurs tout à l'heure. La Côte-Nord a été plus souvent dans le vert que dans le rouge. Ouais. Donc, ils sentent probablement moins le poids des mois qui passent qu'il y a des gens qui ont été dans le rouge plus qu'eux.
Dominique, Yasmine, merci à vous deux. Passez une belle fin de semaine. Habillez-vous chaudement, surtout Dominique. À Québec, il fait frette. Salut.
Allez-y.
Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net. Autre.
Il démystifie les enjeux de société avec finesse et ingéniosité. Philippe-Vincent Foisy. Une diplomatie qui a de l'audace.
Cube Radio.
Salut Jean-François.
Salut Philippe-Vincent.
Bon, 4-3 en prolongation. Premier match, vrai match pour Kent Hughes.
Oui, qui a rencontré l'équipe, qui a rencontré Dominique Ducharme avant le match. Il n'y a pas eu vraiment d'écho là, de ces rencontres-là, à part qu'évidemment, tout le monde l'a trouvé fantastique et formidable, mais on ne s'attendait pas à autre chose que ça. Reste qu'il était du côté de Vegas hier pour voir jouer son équipe. Et le Canadien en a mangé une autre, même si c'est 4-3 en prolongation, la défaite. Reste que.
Ben, je regardais le nombre de tirs.
Ben c'est ça, on s'est fait dominer tout le long et cette fois-là, c'est pas parce qu'on a accordé autant d'avantages numériques, là, on a donné seulement 3. Donc ça veut dire qu'à 5 contre 5, on n'était pas là du tout. 53 tirs au but pour les Golden Knights contre 27 pour le Canadien. Et ce que ça donne, c'est un record pour Samuel Montembeault. Tu te souviens, cette semaine, je t'ai parlé du fait qu'il était maintenant 5e dans l'organisation pour le plus d'arrêts dans une victoire à l'étranger, ouais. Qu'il était dans les gardiens qui ont reçu le plus de lancers. Ben là, deux performances de 49 arrêts de suite, c'est du jamais vu dans l'histoire du Canadien de Montréal. Alors lui, n'a rien à se reprocher. 53 tirs, c'est beaucoup trop là, accordé par les Golden Knights.
Puis il est fin quand même, parce que là, il disait « Oui, mais grâce à l'équipe, les tirs étaient pas super bons, puis ils ont pu les garder un peu à l'extérieur des zones difficiles pour faire des arrêts. » Quand même smart, là.
Ouais, ben de toute façon, c'est ça qu'il faut qu'ils disent. Là, tu sais, c'est quand même un joueur qui n'eût été des blessures à Allen et Price, là, qui est dans la Ligue américaine à quelque part, parce que lui, on est allé le chercher quand les Panthers l'ont relâché cette année. On l'a pris comme joueur autonome. Fait que c'est sûr que lui, il a la chance d'une vie, là, présentement. C'est un Québécois avec le Canadien. Présentement, il est en confiance. Ça veut pas dire qu'il y a pas de la vérité dans ce qu'il a dit. Il y a effectivement, sur les 53 lancés, des lancés qui... Tu sais, des fois, tu peux en recevoir juste 20, mais c'est des échappés, des 2-1, des tirs dans l'enclave. C'est pas mal plus dangereux que des tirs qui arrivent d'un peu partout, qui arrivent de l'extérieur. Puis il est en confiance présentement, Samuel Montembeault. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, chez les marqueurs du Canadien, Petzetta, ça aussi, c'est une autre belle surprise cette année. Là. C'est un gars qu'on connaissait pas avant le camp d'entraînement, qui s'est fait une place à cause des blessés. Mais il est rendu à 4 buts, Michael Petzetta, sur la 4e ligne du Canadien. Toffoli en a marqué un autre pour 2 en 2 matchs. Et c'est Mike Hoffman qui a marqué le 3e. chez Théodore, malheureusement, est allé clouer le cercueil du Canadien en prolongation. Et le Canadien qui va remettre ça contre l'Avalanche du Colorado demain soir.
Et ça sera pas avec Jake Allen pour les 8 prochaines semaines.
Ouais, fait que Samuel Montembeault, là, il a vraiment la chance d'une vie. Vraiment. Parce que là, il va être le gardien numéro 1 du Canadien pour un petit bout de
c'est
temps.
C'est qui le numéro 2 maintenant, qui serait techniquement le numéro 4, je pense?
Ouais, ben c'est Kaden Primo.
Okay.
Le jeune, Kaden Primo, à qui on donne des départs par-ci, par-là. Un peu en montagne russe, je te dirais, la qualité de ses départs. Fait que c'est sûr que si Montembeault fait le travail, c'est comme ça qu'on va y aller. Est-ce qu'on pourrait rappeler, c'est McNevin, je pense, qui est cinquième, qui est avec le Rocket. Sinon, est-ce qu'on peut pas aller chercher quelqu'un ailleurs dans la Ligue nationale de hockey? Ça va être à suivre parce que ça fait mal, là, cette blessure-là, à Jake Allen, qui allait très bien depuis le début de l'année. On se souvient de sa blessure contre les Bruins de Boston, là, probablement à Allen, là, il s'était tiré en essayant de faire un arrêt. Mais 8 semaines d'inactivité, c'est énorme. Et on sait très bien que Carey Price n'est pas prêt d'un retour au jeu. Alors, les mauvaises nouvelles s'accumulent, mettons, dans le camp du Canadien de Montréal.
Bon, puis des fois, quand on se compare, on se console. Est-ce que ça va aussi bien que nous, chez les Oilers? Il y a des chandails qui ont été jetés sur la patinoire.
Ouais, ça va plus du tout. Du tout, du tout, du tout chez les Oilers, qui avaient pourtant un bon début de saison, mais là, on en a perdu une autre hier. On a perdu 6-0. On accumule les défaites. Je t'ai fait entendre plus tôt cette semaine, tu te souviens, Léon Draisaitl qui a perdu
contre un
journaliste. Et hier, dans cette défaite-là de 6-0, il y a 2 chandails des Oilers. Puis ça, c'est un peu un sacrilège. On l'avait vu chez le Canadien cette année, là, qui ont été lancés sur la patinoire en signe de dégoût envers l'équipe. Alors moi, je suis convaincu qu'en fin de semaine, lundi, quand on va se reparler, il va s'être passé quelque chose chez les Oilers. Congédiement de l'entraîneur, est-ce que c'est le DG qui va sauter, est-ce qu'on va faire une transaction, je ne sais pas, mais on ne peut pas laisser aller la barque comme ça.
On pourrait-tu maintenant aller chercher Connor McDavid, mettons, là, je m'en dis ça de même.
Ben, on peut leur donner Pezzetta, il va bien de ce temps-là, là, puis Suzuki 2 buts en 2 matchs, fait que s'ils veulent faire l'échange, s'ils sont vulnérables et qu'on réussit à aller chercher Draisaitl ou McDavid, moi je suis partant là-dessus à 100 000 à l'heure.
Mettons pour la moitié là, de l'équipe, là.
Ah ouais, écoute, la moitié de l'équipe, on peut prendre une partie du salaire de ces gens-là, il n'y a pas de problème.
Parle-moi de baseball. Mauvaise nouvelle pour M. Brumfan, la garde partagée, finalement, ça ne fonctionnera pas avec Tampa.
Oui, ben mauvaise nouvelle pour tout le monde, en fait. Donc, le projet là, de garde partagée avec Tampa Bay, la moitié des matchs ici, la moitié des matchs là-bas, qu'on a reçu le coup de téléphone comme quoi c'était annulé, tout ça. C'est la première fois que je voyais Stephen Prothman aussi abattu. C'est un homme d'affaires qui en a vu d'autres, mais il croyait, il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Il l'a dit lui-même, il n'y avait pas de plan B. Donc, tout tombe à l'eau, autant le projet d'équipe à Montréal, mais le projet de stade aussi. Ce qu'on pense que s'est passé, là, c'est ce que M. Prothman disait, c'est probablement le baseball, parce que c'est le baseball majeur qui a décidé. Présentement, on est en négociation, comme tu le sais, avec l'Association des joueurs. Il y a un conflit de travail du côté du baseball et probablement que dans les négos, là, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau et c'est la fameuse garde partagée parce que depuis le début, on se demande comment ça va être viable. Tu sais, un joueur de baseball va avoir quoi? Sa famille ici puis sa famille là-bas? Ses enfants vont à l'école où? Il paye ses impôts où? Etc. Fait que probablement que dans les compromis qu'on doit faire, il y a le baseball qui est tombé, le projet à Montréal qui est tombé à l'eau. Et même si j'étais pas convaincu, reste que je trouve que ça fait mal par les temps qui courent. Tu sais, la Ligue nationale de hockey, on a bien compris qu'elle ne viendra pas à Québec pour un petit bout. Là.
Ouais.
Le projet de baseball de Montréal, je pense qu'il est mort et enterré. Là. On n'entendra pas parler pour longtemps. Tu sais, la pandémie qui va plus mal qu'ailleurs. J'ai l'impression que présentement, là, être au Québec, c'est pas l'affaire la plus le fun et on n'est pas dans le vent. On n'a pas le vent dans le dos puis que tout va bien là, présentement.
Ouais. Au moins, on est là, nous autres, Jean-François.
Ouais, on a plus de projet. On a plus de projet, je trouve, de société puis de choses qui roulent puis qu'on peut regarder ailleurs puis faire hey, hein? On est-tu en train de clencher tout le monde là-dessus? Au contraire.
Attendons. C'est juste une mauvaise passe.
Hey, je suis pas en train de dire que je vais aller me lancer en bas du pont. Là,
j'espère.
Mais reste que, tu sais, il me semble qu'il y a quelques générations des projets hydroélectriques. Là, on avait du baseball, là, on avait du hockey, on avait du hockey à Québec. On était florissant. Là, tout tombe en pièces du côté du Québec. Il va falloir se resserrer les coudes. Au contraire, c'est ça que je veux dire et remettre le Québec sur ce qu'il peut être.
Ouais. Denis Shapovalov, ça a bien été.
Shapovalov, ça c'est une bonne nouvelle. Il a gagné son match contre l'Américain Opelka. Il était classé 23e. Là, c'est un beau défi pour Shapovalov. Victoire en 4-7, 7-6, 4-6, 6-3 et 6-4.
Jean-François, je te souhaite une belle fin de semaine, de profiter d'une de nos richesses nationales, le froid.
Oui, hey, à matin, ça saisit quand même. J'ai regardé le thermomètre, ça fait trop colide que c'est ça.
Oui, oui, non, il faut se couvrir le visage. Puis demain, on a un avertissement en fait, de froid extrême pour la nuit et demain matin.
Ben, alors, je vais rester bien en dessous des couvertures.
Profites-en pour t'en mitoufler à la maison. Salut, bonne fin de semaine.
Toi aussi, ben.
Le commentaire de Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
Salut Michel.
Bonjour Philippe Vincent.
Alors, le pétrole, c'est redevenu payant.
Ben oui, mais écoute, tu vois, l'Association canadienne des producteurs pétroliers et gaziers s'attend en 2022 à une augmentation, toi, des investissements pétroliers et gaziers de l'ordre de 22%. Qui est quand même énorme parce qu'en 2021, évidemment, on avait également connu une croissance, pas aussi forte, mais une croissance. Or, on entend investir, on projette des projets pour 33 milliards de dollars, ce qui, évidemment, on sait bien, là, c'est surtout du côté de l'Alberta, il va s'en dire, mais également de la Saskatchewan et puis de la Colombie-Britannique. Or, ça laisse entendre que Stephen Guilbeault, il va devoir aimer fort.
Ouais.
Alors, tu sais, au plan environnemental, on sait bien que les investissements dans le pétrole puis le gaz, c'est pas ce qui aide le plus la planète. On s'entend là-dessus.
Non, mais on est censé mettre un plafond aux émissions.
Oui, c'est ça, comme tu dis. On est censé. On retient le mot censé. Mettre un plafond d'émission. Alors, cela dit, écoute, il y a une recrudescence de consommation du pétrole. La demande est de plus en plus forte. D'ailleurs, s'ils investissent, on s'entend que quand tu projettes des investissements de la sorte, c'est parce que tu penses que ça va rapporter durant de nombreuses années. Là, tu sais, on a beau dire que le pétrole est une ressource qui s'éteint petit à petit, mais écoute bien, là. Ça risque de perdurer pendant longtemps l'utilisation du pétrole, même si on le sait là qu'on va de plus en plus électrifier nos moyens de transport et on le fait. Mais en tout cas, bref, toujours est-il que pour probablement les 10 prochaines années, la consommation tend plutôt à augmenter et puis on développe de plus en plus de projets. Il faut savoir que le Canada, c'est quand même le quatrième, c'est toujours, je reste toujours surpris quand je vois ce chiffre-là, on est le quatrième producteur au monde.
Ah ouais, hein?
Ouais, quatrième, écoute bien, on en produit. Puis nous, évidemment, on sait bien qu'on a ce qu'on appelle du pétrole sale. C'est toujours relatif quand tu parles du pétrole, tu dis qu'il est sale, là, à cause des sables bitumineux.
Il produit plus de gaz à effet de serre. Là.
Oui, c'est ça. Ça pollue encore plus. Alors, en tout cas, bref, je serais curieux d'entendre Stephen Guilbeault là-dessus, moi, là.
C'est une bonne question.
On va surveiller pour pas quand même qu'il y a des grosses subventions qui se donnent pour aider les entreprises. Tu vois, ça serait à vérifier.
Mais il y en a encore, hein? Il y en a encore pas mal, des milliards qui sont versés aux entreprises fossiles, mais on promet d'ici un an et demi d'arrêter ça. Donc, mais j'ai bien hâte de voir M. Guilbeault aussi son plan pour 2030. On était censé le déposer l'année passée. Ça a été retardé encore une fois à cause de la pandémie. On l'attend avec impatience. Parle-moi des restaurateurs, Michel.
Ah ben là, écoute, ça c'est vraiment, là, il y a des cris d'alarme qui sont lancés par eux. Justement, on en trouve un là dans le journal aujourd'hui, là, selon un article de notre collègue Olivier Fauché. Alors, écoute, le problème, on sait évidemment que les restaurants sont fermés. Alors, on sait évidemment qu'il y a des programmes aussi d'aide financière pour les aider à survivre. Mais le problème, rapportons dans le journal, le problème, c'est que ça prend du temps et puis c'est très laborieux de pouvoir remplir les fameux formulaires de demande financière. Et écoute, il faut que tu utilises un comptable et puis même lui, il a de la misère à s'y retrouver. Tellement que c'est complexe. Ça, je vais te dire, je ne suis absolument pas surpris qu'au Québec, à chaque fois que tu fais des demandes, quand tu mets ça entre les mains, comprends-tu, des fonctionnaires, c'est jamais simple. Mais c'est jamais simple. T'sais. Alors, la question, ils te la définissent en 50 sous-questions. Tu n'en finis jamais. T'sais. Or, c'est de cela qu'on se plaint. En tout cas, il paraît, tu vois, en ce qui concerne les programmes d'aide qui avaient été mis en place lors des vagues de la COVID antérieure, Ça a pris un an à peu près de délai avant que les gens reçoivent leur argent, tellement que c'est long et laborieux. Alors ça, j'inviterais quand même le gouvernement Legault à donner un coup de barre de ce côté-là. Écoute bien, là, tu sais, t'es au bord de la faillite, là, c'est pas compliqué à voir, là, tu sais, t'es un restaurant, il est fermé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, on s'entend-tu qu'il n'y a pas une scène qui rentre? Hein, puis que t'as des dépenses fixes? Alors ça prend pas une tête à Papineau pour comprendre qu'ils sont au bord du précipice financier. Alors qu'on accélère le processus, voyons donc, puis qu'on simplifie la maudite paperasse.
C'est fou, hein?
Moi, mais... c'est ça qui m'enrage, ça finit jamais.
Puis plus ça va, j'ai l'impression, plus on en met de la paperasse. On dit, on va la réduire, mais on va faire de la paperasse pour réduire la paperasse.
Ah, écoute, c'est ça qui est incroyable. Toute la bureaucratie mise en place pour pouvoir étudier une demande. Hey, il est en train de crever, là.
Je pense que le message peut pas être clair.
Un peu, là, voyons donc, il faut accélérer. En tout cas, bref, j'espère qu'on va accélérer le processus.
Michel, je te souhaite une bonne fin de semaine.
On va mettre ça sur la glace en fin de semaine.
Eh boy, de la glace va en avoir en torieux. Salut, là.
Salut.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société. Cube Radio. Vous écoutez Philippe-Vincent Choisy. Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Benoît, bonjour à vous deux.
Wow. Il fait fret.
Il y a un peu de réverbération dans nos voix ce matin, Benoît.
Oui, c'est comme si c'était hanté.
Il fait tellement froid que notre voix résonne.
Ben oui.
Rémi va arranger ça à l'instant. Est-ce que tu m'entends?
Oui, là, tout va bien.
Ah, bon, ben Rémi est là pour régler ses problèmes.
Le
merci
doigt magique.
Alors, Benoît, on va commencer en parlant de baseball à Montréal. Terminer le baseball... Monsieur Blanc n'est pas content. Il dit que c'est une claque au visage, cette décision.
Mais écoute, c'est, Mario en parlait aussi, là, c'était un de ses sujets. Moi, c'est plus que le baseball. Là. C'est parce qu'on se fait dire par Rob Manfred, le commissaire de la Ligue majeure de baseball, non à Montréal, pas de baseball, pas de garde partagée avec les Tampa Rays en Floride. Mais là, faut pas oublier que Gary Bettman a dit non à Québec aussi.
C'est vrai.
Fait que là, il n'y aura pas de Nordique, il n'y aura pas d'Expo, on vivra pas dans le passé, on va pas...
Mais les Canadiens sont là, remarcher. Benoît.
Oh mon Dieu. J'écoutais Jean-François.
Attends-le.
Mais Jean-François, tantôt, avait un bon commentaire sur, tu sais, sur l'époque où on avait du baseball, on avait du hockey, on avait, tu sais, les Alouettes aussi, là, il y avait une effervescence, là, au Québec. On était capable d'accomplir de grandes affaires, des barrages électriques, tu sais, on était en pleine expansion. Là, tout à coup, en 2022, alors que toute la technologie est là, tout pourrait être plus simple, il n'y a rien qui se passe.
Ben, il y a du tennis, Félix Auger-Aliassime, là, Annie Fernandez. Oui. On pourrait avoir des compétitions de ski de fond, on pourrait faire du vélo, de montagne. Mais il y a d'autres sports que les trois gros sports populaires.
Non, mais c'est pas juste du sport, c'est une industrie, c'est du fric, c'est des jobs, c'est un rayonnement à travers le monde. Ben non.
Ben oui.
Quand tu regardes, hey, je vais-tu me mettre sur le bord d'une piste, moi, puis les mains dans le dos, pour regarder des skis de fond passer devant moi?
Ben,
il
n'y
a aucun plaisir là.
Voyons donc.
Fais-le. Ça me fait plaisir que tu fasses l'exercice.
Il y a plein de monde partout dans le monde qui font ça. Là.
À regarder du monde faire du ski de fond?
Ben oui.
Get a life. C'est
bon, ouais, ton allié Mario est là. Mario, je t'écoute sur le baseball.
Non, mais je veux dire, tu nous amuses ce matin. Je pense pas que c'est une industrie. Bon, peut-être qu'en Norvège, dans un pays scandinave, il y a une culture du ski de fond.
En Europe,
ils ont une carabine dans le dos, là.
Oui, mais je pense pas qu'il y a rien de comparable avec ces maisons. Moi, d'abord, c'est, je trouve ça bien triste, un. Deux, bon, je pense que beaucoup de gens vont se réjouir parce que pour beaucoup de gens, ce dossier-là se résumait à dire, avec la démagogie la plus extrême, que je me souviendrai toujours de ce qu'auront dit les gens de Québec solidaire, là. On va prendre l'argent du réseau de la santé puis on va le donner à des millionnaires du baseball. Tu sais, présenté de même, c'est sûr que ça a l'air d'une absurdité, mais tu sais, c'est une industrie. Je comprenais, j'ai jamais compris, mais pourquoi, je veux dire, on aurait été prêt, mettons, à ce qu'Investissement Québec investisse dans une entreprise d'informatique, d'aviation, mais pas de sport professionnel, là. C'est absolument absurde, là. Si un est aussi rentable que l'autre, je veux dire, il y a aucune raison de dire, ben moi, ça s'appelle baseball, j'aurais investi le même montant dans une entreprise informatique, mais si ça s'appelle baseball, je veux même pas qu'on la considère, je veux même pas qu'on la regarde, je veux même pas qu'on regarde les chiffres, je veux même pas qu'on regarde les états financiers. Alors ça, c'était absurde, parce que c'est une visibilité extraordinaire pour Montréal, là. Tu te remets dans les ligues majeures, c'est un mauvais jeu de mots, des grandes villes en Amérique du Nord. Et, bon, mais ceci dit, Steven Bronfman doit être déçu et frustré, là, parce que se faire dire non dans la vie, c'est une chose. Je pense que si on avait la première étape, si on lui avait dit, garde, là, c'est une équipe,
oublie
regarde,
ça, là, ouais.
la ligue veut pas ça. Bon, c'est un non-projet, là. C'est un projet non envisageable. On perd pas de temps là-dessus. Mais travailler autant, y mettre son cœur, puis tu sais, on est souvent porté à dire, ah, les milliardaires, c'est facile, ils ont l'argent. Non, c'est, oui, ils ont l'argent, ils peuvent accomplir des choses que nous, on peut pas, mais ils sont pas obligés, là. Tu sais, tu peux t'acheter une grosse villa aux îles Caïmans, puis regarder l'eau, là. T'sais, tu décides d'investir pour ta ville, d'investir, c'est ton cœur est là-dedans. Lui, son cœur était là-dedans, il voulait faire de quoi pour Montréal, de quoi tu serais fier, puis tout ça. Et après des années à travailler, besogner, aller voir tout le monde, monter un projet, se faire dire, finalement, c'est sur quoi tu travailles, là? C'est quoi qu'on n'est même pas prêt à envisager?
Non, mais c'est la Ligue majeure, là, qui a refusé, là. C'est pas Montréal,
oui,
là.
C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis.
Mais Québec est prêt à mettre.
Le baseball majeur, épouvantablement.
Benoît.
Mais là, on est prêt à mettre 200 millions encore dans les avions, là, qui lèvent pas. Qui décolle pas.
Les C-Series A220.
Mais moi, j'étais pas, j'étais contre le fait qu'il y ait de l'argent public dans cette affaire-là. Que Bronfman investisse, qu'on l'aide d'une façon ou d'une autre, qu'on lui facilite la vie, moi, je suis d'accord avec ça, là. Mais de faire des chèques à Bronfman, à Boyko, à Mitch Garner, là, c'est non. Mais c'est un projet qui est dommage, qui vient de tomber, comme celui du retour des Nordiques. Là, il y a une question à se poser, là. C'est la capacité de nos politiciens puis de nos hommes d'affaires de convaincre ceux qui sont en poste de décision. On n'a pas réussi à convaincre Gary Bettman pour le hockey. On n'a pas réussi à convaincre Rob Manfred pour le baseball. Il faudrait rappeler Jean Drapeau, je sais pas trop, tu sais.
Je t'arrête de ça. On avait convaincu le commissaire du baseball, Manfred, là. C'est vraiment, il semble que c'est les propriétaires. Roger Brulotte me disait hier, même quelques-uns des vieux propriétaires très conservateurs qui se sont mis là à roter du sur cette idée d'une équipe à garde partagée. Puis là, ben, au début, il avait laissé aller, mais ça fatiguait. Puis là, il disait d'autres vont le faire. Et non, parce que le commissaire du baseball, lui, était plutôt même enthousiaste, puis avait donné son feu vert. Mais pour le sport professionnel, on se comprend que le Canada n'a pas la cote plus qu'il faut, en partant. C'est des ligues qui sont dominées aux États-Unis. Puis à mon avis, le Québec là n'a pas la cote trop tôt dans le Canada non plus.
C'est un petit marché aussi.
Petit marché.
Ben il y a non, des c'est comparable.
Dans le baseball majeur, il y a des marchés plus petits que Montréal, aux États-Unis, là, plusieurs.
Alors, il y a quelque chose qui marche pas, là, puis effectivement, le Québec est pas choyé. Le Canada nous déteste. Ça doit être à cause de la loi 21, d'ailleurs.
On en avait des équipes en passant, hein. On les a laissées aller, là.
Parce
qu'on mettre de fonds publics là-dedans, puis tout ça. Ben. Mm. On avait les Nordiques, puis on avait les Expos, on les a laissés aller les deux.
Bon, mais peut-être qu'on pourrait mettre de l'argent dans les échangeurs d'air. En passant,
Jean-François Roberge, là, pis c'est son équipe de communication, là, moi, j'en ai ras le pompon. Là, on nous a offert, là, on court après. Moi, je veux lui parler, moi, comme tout le monde. Hier, on rappelle, ben, on dit, ah oui, il va avoir 5 minutes. C'est à peu près ce qu'il t'a fait, le coup qu'il t'a fait. Là, j'ai dit non. Moi, j'en veux pas d'entrevue de 5 minutes. Si tu veux une entrevue de 5 minutes, va te parler dans le miroir, va parler à tes amis, mais si tu veux une vraie entrevue, moi, je dois avoir du temps pour te relancer, pour faire des sous-questions, puis pour aborder tous les sujets qu'on doit aborder. Je comprends qu'on passera pas une heure ensemble, mais 10 minutes au moins, 10 minutes au moins. Mais là, t'arrives avec 5 minutes. 5 minutes, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tous les sujets qui sont sur la table, là, t'en prends un, tu prends pas l'autre. Puis lui, il prend le temps de répondre à une question, puis l'entrevue est finie. Il dit, ben non, ça a pas de sens. Là, Jean-François Roberge, là, je sais qu'il veut contrôler le message, il veut contrôler la réalité, il veut contrôler Walt Disney, il veut tout contrôler, mais il contrôle rien, puis c'est le bordel dans les écoles, les profs, on le sait, là, l'algorithme de gestion des cas de COVID, c'est tout croche, c'est le ministère de la Santé, mais ça revient aussi à l'éducation. Les écoles acidiques en Outremont qui sont restées ouvertes, puis que le ministère de l'Éducation a jamais bougé, il a envoyé une mise en demeure dont on se contrefiche parce qu'il l'a envoyé en 2020 puis ça n'a rien donné non plus. Les enfants qui gèlent, qui sont dans les écoles avec des classes parce qu'il y a une tête de cochon puis il a jamais voulu aborder, penser réellement aux échangeurs d'air puis aux purificateurs d'air. Puis là, il se ramasse là puis lui, il pense venir faire des entrevues de 5 minutes. Hey, j'ai des nouvelles pour toi.
Mario.
Ouais, le dossier de l'air n'a jamais été réglé. Continue à traîner, mais au ministère, incluant le ministre Roberge, là, et à la santé publique, ils ont toujours continué de dire, à l'étonnement général peut-être, mais ils ont toujours, sur la question de l'ouverture des fenêtres en plein hiver, là, même par des temps froids, ils ont toujours continué de dire que ça se faisait. Hein. Pas pendant que, dites-vous pas, la fenêtre à côté d'un enfant pendant qu'il est là, mais en dehors, le midi, à certaines heures, à certaines périodes, ils ont toujours continué à dire que ça se faisait. Moi, j'ai toujours été étonné, mettons, pour être poli, étonné de ça. Mais c'est l'école de pensée. J'ai hâte de voir aujourd'hui comment ils vont réagir au reportage du journal. Mais ils ont toujours maintenu, oh oui, il y a moyen, même par temps froid, d'ouvrir les fenêtres. Je sais pas lequel, même un en entrevue m'avait dit, c'est quelqu'un de la santé publique ou c'est le ministre Roberge même, c'était pas idéal là, du point de vue d'Hydro-Québec, là, du point de vue de la conservation de l'énergie, mais que c'était faisable là, dans une période comme une pandémie où il faut absolument remplacer l'air. Mais c'est pas, tu sais, quand on parlait de dossiers où la santé publique aurait dû à un moment donné expliquer ses décisions, si sont explicables. C'en est certainement un, là. Tu sais, avoir un briefing complet de la santé publique sur comment ils perçoivent l'importance de la qualité de l'air, la transmission par aérosol dans les classes, les risques, etc. Parce que on a toujours su qu'ils trouvaient pas ça si prioritaire, mais on n'a jamais entendu une démonstration détaillée ou une explication détaillée du pourquoi, puis de l'écart entre la santé publique québécoise puis la santé publique dans d'autres juridictions qui semblent beaucoup plus sensibles à cette question-là. Et le nouveau directeur de la santé publique à la conférence de presse sur la reprise des écoles, là-dessus, sur ce thème-là, il est resté général en disant, écoutez, la reprise va se faire dans des conditions sécuritaires. Conditions sécuritaires, on présumait que ça incluait la qualité de l'air, mais là, on voit aujourd'hui dans le journal ce que ça donne dans le vécu, ouais. Là.
Ben oui, puis là, on a mis de l'argent dans les lecteurs de CO2. Puis d'ailleurs, ce que tu dis, Mario, là, tu sais, de démontrer leur décision, d'expliquer leur décision, ben, on a eu la démonstration de l'inverse. Comment les purificateurs d'air fonctionnent, comment les échangeurs d'air fonctionnent. Et là, on applique des lecteurs de CO2. Là, la prof rentre, puis dit, ouais, le lecteur de CO2 est supérieur à 2500 ppm. C'est censé être 1500 ppm. Ben, on va ouvrir les fenêtres. Où on va prendre tous vos cahiers puis faites du vent. Tu sais, puis t'es
non, mais dans
impossible.
Certains cas, les lecteurs de CO2 sont là pour justifier la présence. Lorsqu'il y a des problèmes de lecture de CO2, ils en ont, là, des échangeurs d'air, je pense qu'il y en a une, il y en a
300 à peu près.
Il y en a une centaine d'autres. Donc, c'est le lecteur de CO2 n'est pas le fait en soi. C'est pour mesurer quelque chose. Sauf que là, on arrive au mois de février de la troisième année qu'on est en pandémie dans les écoles. C'est
ouais. Ouais. C'est pas toi, Philippe Vincent, qui disait c'est comme mettre un thermomètre puis dire ah ben il fait froid dehors.
C'est ça.
T'sais, mais une fois que c'est mis, c'est correct.
C'est pas moi qui ai dit ça, mais je trouve que c'est une excellente image.
Ouais, en tout cas.
Mais bon, c'est comme si ça, il fait froid dans la classe. Oui, c'est ça. On n'a pas de chauffage. C'est ça. Ouais.
Mettez votre manteau, mettez votre tuque. Là, essayez de vous concentrer pour étudier, là, parce qu'on est ici pour étudier.
Non, puis si le nez coule parce que t'as froid, là.
Ah ben là, on appelle. Là, ben tu.
Ça, c'est deux symptômes.
Tu consultes l'algorithme de gestion que personne n'a compris, mais une chance que Daphné Dion-Vien l'a expliqué hier dans le journal.
Cette pâtissière de Jonquière là, qui en a assez, qui est à bout, qui dit « Moi, ma salle, elle va être ouverte, ma salle à manger. Les gens vont pouvoir venir s'asseoir. Je fais tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de contamination. De toute façon, c'est des petites tables à deux, que vous soyez à la maison avec votre conjoint ou dans mon café avec votre conjoint. Ça change pas grand-chose. Sincèrement, je n'en peux plus. J'ouvre. » C'est un peu le visage de ce roll-ball collectif qui existe en ce moment.
J'ai une question pour vous deux, moi, ce matin. À quoi ça a servi de se faire vacciner? Là, on a un passeport vaccinal. Quand tu rentres, là, si tu rentres dans un restaurant, tu dis « moi, j'ai eu mes trois doses », ben ça a servi justement à retrouver une certaine normalité. Mais là,
on
a vécu comme ça tout l'automne là, grâce au vaccin. Mais là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Omicron, même chez les gens vaccinés, il a donné toute une volée à tout le monde.
Donc, mais le chez vaccin, les personnes âgées...
Il a servi à sauver des milliers de vies. Deux, il va servir à revenir plus tôt, parce que plutôt que d'espérer revenir d'un restaurant au mois de juin, je pense que cette année, on peut penser revenir au mois de février. Mais je pense quand même qu'il est arrivé quelque chose. On était à 50-60 000 cas par jour, là, incluant des gens vaccinés qui l'attrapaient, qui étaient moins malades que s'ils avaient été non vaccinés. Mais il a fallu...
Malheureusement. On dit tout et son contraire. Là. On dit on va apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire...
C'est une phrase, là. Je veux dire, tout le monde dit ça, apprendre à vivre avec le virus. C'est vrai. Moi, on l'a fait tout l'automne. On a fait que ça cet automne. Mais quand est arrivé au micro, apprendre à vivre avec le virus, ça veut dire quoi, mettons, le matin, que t'as 50 000 nouveaux cas, les hôpitaux sont pleins, on vit avec le virus, on fait quoi, là?
Omicron est moins sévère. Hier, je parlais à Mathieu Simon.
Omicron est moins sévère,
là,
il y a 98 morts hier.
Il est moins sévère aussi parce qu'on est vaccinés.
On est vaccinés.
Ben oui, c'est ça.
Mais c'est ceux qui meurent, ce qu'on m'a dit, c'est les non-vaccinés puis les personnes qui étaient immunosupprimées.
Des personnes fragiles, mais...
Mais le vaccin, il sert à ça. Là. Si c'est des non-vaccinés, des gens immunosupprimés qui ont eu les deux doses, mais pas leur troisième qui meurent, je veux dire, à un moment donné, ça montre que le vaccin fonctionnait, a une immunité ou une efficacité qui diminue, puis les non-vaccinés qui ne l'ont pas eu sont frappés plus fort. Je veux dire,
mais si personne n'était vacciné avec le nombre de cas qu'il y a présentement, là, on ne penserait pas rouvrir les restaurants avant le mois de juin. Là, on peut espérer les rouvrir peut-être le mois prochain. Le point, c'est que on revient à cette dame de Saguenay. Moi, ça ne m'a pas impressionné. Je comprends, elle a été excédée, comme tout le monde, mais... Je pense surtout que c'est une personne qui voulait passer à la TV dans la journée d'hier. Là, ça ne m'a pas impressionné. Son argumentaire était... Son argumentaire était zéro. Quand elle dit « c'est pas de ma faute, là, pas de ma faute la pandémie, puis pas de ma faute tout ce qui se passe, pas de ma faute les hôpitaux », non, mais les gens qui sont délestés, là, qui sont en attente d'une coloscopie, qui sont délestés, c'est pas de leur faute aux autres non plus. C'est sûr, des phrases vides, là.
Attends, c'est parce que tu mélanges tout ça, là. Moi, je peux comprendre cette femme-là qui est ce qu'on dit, là, monoparentale, qui fait 2 000 $ par mois. Tu sais, nous autres, là, on a nos chèques, là. On est payés, on a notre salaire. Là, j'essaie de me mettre à sa place, là, puis t'essaies de survivre, de payer tes comptes. Puis là, on dit, tout est fermé, on a été vacciné, on comprend le délestage, on comprend le personnel de la santé débordé, tu sais, mais je trouve pas qu'on est dans le discours d'Éric Duhaime, là. On n'est pas dans la défiance, on n'est pas dans tout ça, là. Le discours, c'est... j'ai besoin de payer mes comptes.
La défiance puis la négation du besoin de couper les contacts. Je sais pas qu'est-ce que pourrait l'être plus.
Ben, c'est parce que là, il y a des gens qui ont besoin de payer des comptes. Il y a des gens qui vont faire faillite.
Il y a des programmes d'aide qui existent, il y en a pas mal.
Effectivement, ils n'ont pas l'air pour l'instant d'être assez simples et assez rapides pour aider. Ça, c'est un autre problème.
C'est un gros problème.
Ouais. Mais on peut pas négliger, tu sais, on peut pas virer ça de bord, là. Moi, je veux pas qu'on soit dans la défiance, puis qu'on soit dans la désobéissance civile, puis qu'on ait le discours d'Éric Duhaime, puis évidemment, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même une réalité économique de gens qui gagnent plus d'argent, là, qui gagnent plus rien, puis qui attendent de l'aide.
Ouais, mais en passant, c'est un système qui va aider. Parce qu'elle a quand même une pâtisserie, donc ça veut dire que la plus grosse partie de ses revenus se fait, par des ventes. C'est une pâtisserie, là, c'est au comptoir. J'ai ça à côté de chez nous, là, une pâtisserie, puis effectivement, comme elle, pareil comme elle, il y a 6, 7 tables, 7, 8 tables, tu peux prendre un café, prendre ta pâtisserie sur place, prendre un café. Mais je veux dire, ça fait la file du matin au soir, là. Fait que c'est pas par rapport à des restaurateurs qui sont dans des styles de restauration.
Ou des bars, là, tu sais, un bar qui a pas réussi à rouvrir.
Non, mais hier, François Legault. Mais hier, François Legault aurait dû donner un peu d'espoir aux gens, là. Tu sais, Doug Ford parle du 31 janvier. Tu sais, il aurait dû. Je comprends qu'il veut plus.
Mais les hôpitaux, c'est différent, hein.
Non, ben, c'est.
Je veux dire, le système ici est craqué bien raide. Puis Doug Ford, la troisième vague, il l'a fini trop vite. Puis ça a coûté cher à l'Ontario.
Oui, oui. Mais en même temps, là, on est rendu tous, d'un point de vue psychologique, là, je pense que François Legault aurait dû dire, on vous entend, là, mais puis on le sait, là, puis on le prévoit, mais on ne peut pas vous l'annoncer aujourd'hui. Mais donnez un peu d'espoir aux gens.
Je pense que c'est mot de mot, les mots qu'employait Benoît. C'est exactement ces mots-là qu'il employait.
Non, il dit qu'il
comprend. Ça. On ne peut pas pour l'instant. Mais
il donne pas d'espoir. Il donne pas d'espoir, tu sais. Il dit oui, on vous entend, oui, on le sait que c'est dur.
Ouais, mais là, quand il donne de l'espoir, il dit on voit la lumière au bout du tunnel, on rit de lui, que cette maudite lumière au bout du maudit tunnel, fait que, tu sais, il sait plus quoi dire, là.
Ben, mais il y a peut-être des formulations à trouver.
Moi, j'en ai de l'espoir. Moi, je pense que les restaurants, là, j'ai bon espoir que ça se replace, ils vont être ouverts à Saint-Valentin. Maintenant, le portrait, tu sais, hier, le portrait qu'on a, épidémiologique, là, ça a commencé à baisser les hôpitaux. Moi, hier, ça a baissé de 14. Notamment à cause du grand nombre de décès, parce que dans les entrées et les sorties d'hôpitaux, les décès en font partie. Dans une personne qui sort de l'hôpital les pieds par en avant, c'est une sortie d'hôpital. Donc, il y a eu plus de sorties que d'entrées. Ouais, une journée qui a 98 décès. Ce qui veut dire que ce qui fait que ton bilan global dans les hôpitaux est au vert, que t'as moins de monde à l'hôpital à la fin de la journée que t'en avais la veille, c'est notamment à cause des décès. Je pense pas qu'on puisse parler d'une situation complètement revenue sous contrôle.
On va voir les chiffres aujourd'hui. Là. C'est censé baisser encore un petit peu.
C'est censé baisser pour vrai aujourd'hui.
Espérons que ce soit la tendance. Messieurs, je vous souhaite une belle fin de semaine.
Okay.
Salut.
Lundi.
Salut.
Bye.
Philippe-Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio.
Parlons de ce qui se passe en Ukraine avec le professeur Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques, vice-recteur associé au Collège militaire royal du Canada, spécialiste de la Russie. Monsieur Jolicoeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Il y a des troupes, 100 000 troupes en ce moment russes qui sont à la frontière. On est en train de parler d'une possible invasion de l'Ukraine. Il y a des craintes du côté américain. Il y en a qui disent il y a des chances, là, 8 sur 10 à peu près, que la Russie fasse quelque chose, essaie de rentrer en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous lisez la situation en ce moment?
Ben écoutez, c'est plutôt étonnant de réaliser à quel point Vladimir Poutine, donc le président de la Russie, utilise un discours radical actuellement, à quel point il tente de faire pression pour absolument s'assurer que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN. Mm. Le but de tout ça, enfin, c'est difficile à comprendre parce qu'on n'est pas vraiment dans la tête de Vladimir Poutine. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'action un peu extrême. Il y a déjà au printemps 2021, donc il y a un peu moins d'un an, il avait encore une fois massé des troupes considérables, 80 000, presque 100 000 troupes aux frontières de l'Ukraine. Mais à ce moment-là, les objectifs étaient un peu plus clairs. Ce qu'il voulait, c'était obtenir une rencontre avec Joe Biden, il essaierait d'attirer l'attention. Il a obtenu sa rencontre diplomatique, il a pu négocier, et donc il a un peu obtenu ce qu'il voulait. Cette fois-ci, on n'est pas très sûr qu'est-ce qu'il cherche à obtenir. Et surtout, on se demande quelle est l'urgence. Cette fois-ci, on a l'impression qu'il est plus sérieux dans sa volonté dans sa menace, en tout cas moins, d'envahir l'Ukraine, parce que le type de troupes qu'il a déployées, les armes qu'il a amassées aux frontières de l'Ukraine, tout semble indiquer qu'il a l'équipement et, enfin, la menace est sérieuse, parce que s'il décidait vraiment d'envahir l'Ukraine, il est équipé pour le faire.
Avez-vous l'impression qu'on se dirige vers un conflit? J'essaie de regarder ce qui se passe. Vous me dites, il est là, il y a 100 000 troupes qui sont là. C'est pas juste un message pour avoir une rencontre, puis après ça, on peut calmer les ardeurs. J'ai l'impression que ça va y prendre une sortie de crise honorable là, pour Vladimir Poutine, qui est soit un engagement ferme des États-Unis que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, ce que l'OTAN ne veut pas avoir, ou on va devoir intervenir, il va devoir y avoir du mouvement de troupes pour au moins montrer qu'on a agi. J'ai un peu l'impression que le conflit est presque inévitable, puis c'est un peu ce qu'on entendait du côté canadien aussi, là.
Alors, conflit, il y a déjà. La question, c'est plutôt, est-ce que le conflit va devenir armé?
Ouais.
L'étal, ou s'il y aura des pertes de vie là, liées à cela. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une opposition où chacun des camps campe sur leur position. Vladimir Poutine demande ou exige que les pays occidentaux, ou à tout le moins les pays membres de l'OTAN, arrêtent l'élargissement de l'OTAN. Il demande aussi des garanties, à savoir que jamais on va accueillir au sein de l'OTAN l'Ukraine ou la Géorgie. Alors, c'est de mettre les pays occidentaux devant un ultimatum comme celui-là, ce sont des conditions qui sont inacceptables. Il est évident que les pays membres de l'OTAN ne peuvent pas capituler. Ils ne peuvent pas accepter les conditions de Vladimir Poutine. Comment faire pour éviter que la crise dégénère et comment faire pour satisfaire Vladimir Poutine, c'est très difficile. Puisque à plusieurs reprises, il a annoncé qu'il ne veut pas céder et on dirait qu'à chaque jour qui passe, il met des conditions supplémentaires en disant que s'il y a des nouvelles sanctions contre la Russie, c'est une ligne rouge. Si on envoie des armes en Ukraine, c'est une nouvelle ligne rouge qui est franchie et donc il se sentirait justifié d'intervenir. Donc comment est-ce qu'il peut sortir de crise? Ben, il y a peut-être moyen pour Vladimir Poutine d'entreprendre d'autres actions que l'intervention militaire en Ukraine. Peut-être que si les pays membres de l'OTAN, les quelques menaces qu'on a annoncées pour l'instant, si on ne les met pas en œuvre, ce serait une petite victoire pour la Russie. Et parmi les menaces, eh bien, on a annoncé que des trucs plus ou moins tangibles. Là. Personne parle d'envahir la Russie. Personne veut avoir un véritable conflit avec la Russie. Donc, le type de menace qu'on a annoncé pour l'instant, c'est éventuellement de retirer la Russie du système SWIFT pour le système bancaire.
Ouais.
Peut-être des limites sur la dette souveraine de la Russie. Peut-être des sanctions supplémentaires sur des projets énergétiques.
Mais êtes-vous optimiste que ça va se régler comme ça ou vous pensez que ça va dégénérer?
C'est étonnant parce que je pense que Vladimir Poutine s'attend à un peu plus et ce genre de menaces ne sont pas suffisantes à mes yeux pour empêcher Vladimir Poutine d'agir.
Donc il y a une réelle crainte.
Et ça n'a pas empêché la Russie de maintenir un discours radical. Donc, je pense que ce qu'il faudrait, c'est éventuellement fermer les yeux sur le fait que la Russie va peut-être garder un peu plus de troupes à la frontière de l'Ukraine, peut-être un peu plus de troupes dans des territoires proches des pays membres de l'OTAN,
ouais.
Peut-être des armes, peut-être que des armes qui sont jugées comme étant dangereuses et qui déséquilibrent un peu là, l'état des forces présentes en Europe présentement, ou accepter que Vladimir Poutine déploie des troupes, et il a menacé éventuellement de déployer des troupes plus proches du continent américain, que je ne sais pas moi, Venezuela ou à Cuba, ou je ne sais pas. Et donc, s'il entreprenait ce genre de menace, ben, ça lui permettrait d'annoncer au peuple russe qu'il entreprend des actions, qu'il a fait ce qu'il faut pour sécuriser la Russie en lui-même exerçant un certain nombre de menaces. Et peut-être qu'il faudrait accepter de vivre avec cette menace rehaussée pour pour satisfaire Vladimir Poutine. Mm. Autrement, je ne vois pas vraiment, pour l'instant, pas vraiment de sortie de crise là, qui s'annonce. Le balai diplomatique continue, au moins on continue de parler avec avec les autorités russes, mais je dis « on », c'est les autorités canadiennes, les autorités américaines, dans toutes sortes de cadres, multilatéral, bilatéral, mais malgré cette négociation, ça ne semble pas avancer beaucoup.
Pierre Jolicoeur, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer tout ça.
Merci.
Pour parler à Philippe-Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO. 1-877-CUBE-RADIO.
Cube Radio.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe-Vincent, j'ai un scoop pour toi aujourd'hui.
Vas-y.
J'ai appris de sources sûres que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, allait passer la journée avec les fenêtres ouvertes dans son bureau en signe de solidarité avec toutes les écoles au Québec où des enfants vivent dans un froid polaire, sont obligés de porter leur parka, leurs grosses bottes d'hiver, leurs mitaines, leurs tuques, leurs cagoules, leurs bonnets. C'est absolument invraisemblable ce qui se passe quand on regarde la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, le froid, le système polaire, ça n'a aucun sens. Et j'ai un deuxième scoop pour toi. Dans tous les cours de français à travers le Québec aujourd'hui, on va faire un exercice aux élèves, on va leur demander de trouver tous les synonymes possibles du mot inacceptable, inadmissible, injuste, insupportable, intolérable, irrecevable, récusable, révoltant. Ça a aucun sens. On passe pour un pays en voie de développement. Comment ça se fait qu'après toutes les mises en garde d'éminents scientifiques, depuis, ça fait 2 ans qu'ils nous disent le aérosol, 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 ventilation, 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 purificateur d'air, purificateur d'air. Moi, je me mets à la place de ces spécialistes-là. Admettons, tu t'appelles Nima Machouf, puis ça fait 24 mois que tu parles de l'importance de la ventilation. Puis là, tu dis, les enfants sont dans les écoles, puis la seule chose qu'on trouve à leur dire, c'est on va ouvrir la fenêtre parce que le programmateur de CO2 nous dit que le taux est inacceptable dans la classe. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'on n'a pas écouté les scientifiques, qu'on n'a pas écouté les spécialistes qui nous disent que ça prend un bon système de ventilation? Comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé à bon escient l'été 2021 pour organiser le système scolaire alors qu'on savait que la clé, c'était la ventilation? Pas la ventilation en ouvrant les fenêtres quand il fait moins 92 dehors. T'es pas comme choqué. Moi, je trouve cette image-là absolument... Et je pense en particulier, Philippe-Vincent, aux familles pauvres au Québec. T'as des enfants qui vivent dans des logements insalubres où des fois on arrive, les parents ont pas assez d'argent pour payer le chauffage, où il y a des fois du sarre en râpe à la place des fenêtres. Je le sais, je l'ai vu dans des reportages que j'ai fait dans des cas de pauvreté. Il y a des gens au Québec, des enfants qui grandissent dans des maisons où on ne peut pas se chauffer adéquatement l'hiver. Le seul répit que ces enfants-là ont, c'est de se dire, bon, ben, au moins, quand je vais arriver à l'école, je vais pouvoir me réchauffer, je vais pouvoir... Puis là, on ouvre la fenêtre, puis il fait 13 degrés, puis ils sont là à porter leurs vêtements d'hiver. C'est une aberration, et je ne comprends pas que le gouvernement ait pas vu la lumière. Et là, il y a plein de spécialistes qui disent, bon, ben, on a manqué l'été 2020. On a manqué l'été 2021. Est-ce que cet été 2022, pendant que les élèves seront absents des écoles, est-ce qu'on peut faire un effort collectif et doter toutes les écoles au Québec d'un système de ventilation et de purification de l'air adéquat?
Non, mais c'est parce que ça, au gouvernement, on dit, ben, on a installé des échangeurs d'air là où tous ceux qui nous l'ont demandé l'ont fait. Je me dis, OK, mais toutes les autres là, qui n'ont pas de ventilation mécanique, pourquoi on ne l'a pas fait partout?
Mais non seulement ça, mais on nous dit la solution, c'est on va vous donner des détecteurs de CO2, mais même ça, il y a seulement la moitié des écoles au Québec qui ont des détecteurs de CO2. Fait que de toute façon, les solutions qu'on propose n'ont aucun sens. C'est comme les tests rapides. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des tests rapides pour les élèves. Bon, au secondaire, il faut dire que les chiffres de vaccination sont quand même excellents. Et moi, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu les chiffres de vaccination pour les élèves du secondaire. 98% ont eu leur première dose. Attends, 98%, c'est hallucinant. Bon, 90% ont eu leur deuxième, mais il reste que la solution, c'est on leur dit pas, on vous donne des kits de tests rapides, vous les emmenez à la maison et mettons si un samedi, un dimanche, un soir, vous avez des symptômes, vous vous testez. Non, c'est seulement s'ils développent des symptômes à l'école. Donc, ils peuvent même pas les apporter à la maison.
Non, mais tu sais, soyons honnêtes, là, dans les garderies aussi, là, c'est pas réglé. Là. Il y a des garderies, j'ai reçu un courriel, moi, on me disait, on a quelques tests, là, on va pouvoir en donner à quelques parents dont l'enfant a des symptômes. Je veux dire, les garderies, il me semble, ça fait un mois qu'on nous dit qu'ils vont avoir des tests en priorité. Là.
Non, mais non seulement ça, mais Philippe Vincent, écoute, quand on regarde dans d'autres pays, je sais que des fois, il faut pas comparer, on peut pas comparer, par exemple, notre système de santé avec le système de santé ailleurs. Mais je reviens à cette entrevue que j'ai faite avec ce Québécois qui est installé maintenant en Suisse, où il est responsable dans le canton de Vaud, qui est responsable donc de la lutte à la COVID, et qui m'a dit en entrevue à Cube que ça fait plus de 6 mois maintenant en Suisse qu'on a envoyé aux gens par la poste des tests rapides et que de toute façon maintenant tu peux t'en procurer à l'épicerie, tu peux en procurer à la pharmacie et que c'est rentré dans les mœurs. Tu te dis, bon, on va aller souper chez grand-maman ce soir, toute la famille se teste, fait un test rapide et grand-maman se teste aussi et les gens se voient parce que les tests rapides sont courants, font partie de la vie de tous les jours. Ici, c'est quand t'as un test rapide, tu le mets dans ton coffre-fort ou ton coffret de sûreté à la banque parce que c'est l'affaire la plus précieuse. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas vu venir? C'est que je comprends qu'on soit démunis des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, mais venez pas me dire que la ventilation, on ne le savait pas. Venez pas me dire que les tests rapides, on le savait pas. Venez pas me dire que les masques N95, on le savait pas. Venez pas me dire que toutes ces mesures-là, on ne le savait pas. On le sait, puis on est en retard par rapport à d'autres endroits à travers le monde. C'est ça qui est frustrant.
Oui, puis l'Hydro-Québec qui demande à tout le monde de baisser sa consommation aujourd'hui. Donc, partez le chauffage, ouvrez les fenêtres. Hydro-Québec est d'accord avec vous. Sophie, je te souhaite une bonne fin de semaine.
Puis on souhaite bonne chance à Jean-François Roberge, hein, parce que par solidarité, là, ça lui a fait fret dans son bureau. Mais c'est vraiment solidaire du peuple québécois. On l'apprécie beaucoup. Merci, M. Roberge.
Un beau manteau d'hiver à tous les enfants du Québec, ça pourrait être une bonne idée. Aussi, avec un masque intégré, on y pense, là, on pourrait envoyer les commandes à Quartz, à Canada Goose et autres compagnies canadiennes et québécoises. Salut, Sophie.
Canuc. Merci, à lundi.
Alors, Richard, juste avant de parler, on vient d'apprendre qu'il y a une femme en situation d'itinérance, une deuxième qui est morte en 10 jours à cause du froid hier.
Ah, ouais.
Ça vient tout juste de sortir, là, parce qu'il y a encore des problèmes avec les refuges, l'acceptance, le fait d'accepter certains itinérants qui ne veulent pas nécessairement aller partout. Donc, une autre qui est décédée. On va avoir des détails tantôt, là, j'en ai pas pour le moment.
Il y a aussi des itinérants qui veulent rien savoir des refuges, même s'il y en a, ils sont récalcitrants, il faut aller les chercher. Il y a beaucoup de gens avec des problèmes
de santé mentale, de consommation, il y a des refuges qui sont secs, il y a des refuges aussi où à cause de la COVID, on ne peut pas rentrer. Il y a des refuges qui ne sont pas là où les itinérants sont. Valérie Plante va faire le point à midi, mais donc une deuxième en 10 jours.
Écoute, est-ce que tu es d'accord avec Thomas Mulcair qui dit que la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Gastonguay, qui a outremandé les limites de son mandat en disant on n'a pas besoin de commission d'enquête, il dit là, elle fait de la politique, puis c'est pas son mandat, puis c'est pas sa mission de faire de la politique. Es-tu d'accord avec
ça? La question de la commission d'enquête, je la trouve intéressante dans la mesure où qu'est-ce qu'on demande exactement? Puis tous ceux qui veulent une commission d'enquête, là, à part peut-être José Boileau ce matin dans le journal, là, où là c'est assez clair ce qu'elle demande, mais c'est quoi? On veut une commission d'enquête publique sur la première vague, sur les CHSLD, sur la gestion de la pandémie, sur la santé publique, sur la... Soyons clairs, peut-être qu'il y a des arguments à amener là, à un moment donné, puis aussi savoir c'est qui est responsable. Et... puisqu'on est en échec collectif. Bon, il n'y a personne qui est responsable. Merci, on continue.
Ben oui, on sait comment c'est. Là, même si c'est une commission d'enquête, il n'y a jamais personne de responsable. Ben, souviens-toi le cafouillage de l'autoroute pendant l'hiver. Là, c'était l'autoroute
La 13, la fermeture de la 13 avec le déneigement.
Il y avait même des morts et tout ça. Là. Des ministres du transport qui étaient pas là. Tout à fait. Mais écoute, elle vient de planter le dernier clou dans ce cercueil-là. Maintenant, il y a le beau jeu, le premier ministre en disant, regarde, la commissaire Gastonguay le dit elle-même, on n'a pas besoin de commission d'enquête.
On verra ce que la coroner va dire. Okay. Moi, je pense que la coroner va peut-être ouvrir ce débat-là. Richard, bonne émission.
Merci,
bonne fin de semaine. Merci à toute l'équipe, à Rémi, à Maude. On se retrouve lundi matin.